Radio Django. Vivre à Lausanne.
Et Fabio, quelques nouvelles avant d'entamer cette émission de Karine, notre marathonienne que nous recevions la semaine dernière, qui a couru le marathon de New York.
Oui, elle a donc couru le marathon. On a pu la suivre avec son petit, via son petit chip sur les téléphones portables. Et donc, elle est bien partie. Et j'avais reçu juste ça. Voilà, c'est elle qui cause parmi une cinquantaine de milliers de marathoniens et marathoniennes qui passent devant le téléphone de son mari.
Voilà, parce qu'il faut quand même vous donner le résultat, puisque ça vaut la peine et on la félicite par les ondes de Radio Django. Karine donc a mis 4 heures, 38 minutes et 40 secondes pour parcourir les 42,3 kilomètres. Elle a la place 28 334 sur les 50 643 coureurs.
Génial.
Voilà, je crois que simplement ça se résume en un mot. Bravo.
Bravo.
Voilà. Merci beaucoup Fabio et bravo à Karine. Un sujet la semaine dernière avant le départ à retrouver sur notre site www.django.fm.
Radio Django, 18-19h.
Et dans notre rendez-vous syndical mensuel, nous allons parler aujourd'hui de la quatrième révolution industrielle, la numérisation de l'économie qui fait autant rêver les amateurs de science-fiction qu'elle inquiète les milieux syndicaux, Valérie.
Oui, effectivement, on connaît le e-banking déjà, le paiement en ligne, le self-scanning qui remplace les caissières dans les supermarchés ou les services internet de type Airbnb ou Uber. Mais justement, qu'est-ce que c'est Uber ?
Plutôt sympa, hein, c'est novateur, c'est cool, c'est frais, c'est très pratique pour les clients, mais surtout pour Uber et ses actionnaires. Mais Uber n'étant rien sans ses chauffeurs, il faut qu'ils en recrutent un maximum. Et pour ça, ils utilisent un argument de malade. Travaillez chez Uber et devenez votre propre patron. Et là, tu dis, c'est génial, je vais être patron, je vais gérer mon temps, mon argent, je vais profiter de la vie, et ça, ça fait rêver. Et jusque-là, tout va bien. Sauf que le terme « être son propre patron » n'a pas du tout le même sens pour Uber que pour le commun des mortels. Pour Uber, tu es ton propre patron, mais tu dois quand même leur donner 10%. Non, pardon, 20%. Non, autant pour moi, ils ont encore augmenté. 25% de ton chiffre d'affaires. Mais attention, tu es ton propre patron. Et c'est aussi Uber qui décide des montants des courses. Un jour, ils ont décidé de baisser les prix des courses de 20%, mais d'augmenter leur part de 5%. Comme ça, gratuit. Donc en gros, tu payes ta voiture, tu payes tes charges, tu leur donnes 25%, tu n'as pas le droit de discuter les prix et en plus ils peuvent te désactiver n'importe quand. Et Uber doit arrêter avec son argument qui dit qu'il crée du travail, qu'il crée de l'emploi. Déjà créer un emploi, c'est créer un cadre avec une garantie de rémunération, garantir la sécurité sociale. Ils sont juste en train de créer une armée d'endettés qui roule avec des grosses bagnoles. On est en train de perdre 100 ans de lutte sociale là.
Voilà, voilà, c'est un extrait du sketch Le vrai visage d'Uber, signé Abdel Envray, un youtubeur qu'on vous recommande chaudement.
Et le phénomène de numérisation est en voie de toucher tous les secteurs de l'industrie et des services, avec des conséquences dont il est encore difficile d'évaluer l'ampleur. On va essayer de mieux comprendre tout ça grâce à notre invité du jour, Fabio.
Bonjour, Christian Fankhauser. Tu es secrétaire syndical du SEV, le syndicat des transports. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Radio Django. Peux-tu nous expliquer un peu mieux en quoi consiste la numérisation de l'économie avec des exemples concrets ?
Bon, je vais essayer, c'est évidemment pas facile, mais la digitalisation de l'économie n'est pas un phénomène nouveau. Elle est en cours depuis plusieurs décennies, mais un accord se dégage pour affirmer qu'elle atteint aujourd'hui un point d'inflexion ou de rupture. C'est le mariage entre le fameux big data et la robotisation annonce désormais une nouvelle économie et partant un nouveau monde du travail. Un bon exemple est sans doute les immenses dépôts d'Amazon où le travailleur obéit aux ordres des machines pour effectuer son travail, ou alors les coursiers à vélo qui attendent des ordres arrivant sur leur téléphone portable et qui sont surveillés en permanence par GPS. Mais le consensus s'arrête là. Dans quelle mesure cette nouvelle économie digitale créera, détruira, déplacera-t-elle des emplois ? Quels seront les secteurs les plus touchés ? Quelles seront les nouvelles qualifications nécessaires ? Ces nouvelles qualifications permettront-elles de compenser les énormes déstructurations d'emplois annoncées ? Comment se fera la transition ? Aucune réponse claire n'est apportée à ces questions. De même, les effets globaux sur la qualité de l'emploi, les conditions de travail, les formes de travail, les inégalités sociales sont difficiles à évaluer précisément.
Alors, pardon, excusez-moi.
Dans le secteur.
J'ai un peu perdu le film.
Très prise par votre propos, Christophe.
Oui, absolument. Donc, dans le secteur que tu connais bien, donc celui qui est celui des transports, comment ça se concrétise, cette révolution 4.0?
Nous constatons des nouveaux systèmes d'assistance partiellement automatisés aux véhicules complètement automatisés, respectivement, qui se conduisent tout seuls. Il y a des tests aujourd'hui qui sont effectués auprès de la Südostbahn en Suisse alémanique.
À Fribourg aussi, je crois. Hein,
c'est pas tout à fait la même chose. On parle de train à Fribourg, on parle de navette, mais j'y viendrai peut-être après. Donc là, on est véritablement sur des trains sans mécanicien. Ouais. Et puis ces trains, eh bien, dans 5 à 10 ans, pourraient être pilotés depuis en bureau, on va dire ça comme ça, puisque ce seraient des régulateurs qui le feraient.
Christophe Ankhauser, vous pensez honnêtement que les passagers seront d'accord de monter dans un train sans passagers, j'espère qu'il y en aura toujours, sans chauffeur?
Tout est là, c'est la grande question de l'acceptation et force est de constater aujourd'hui que cette numérisation et ces trains sans pilote existent déjà, puisque si on prend l'exemple de Lausanne, on a le M2 qui est un succès invraisemblable et qui est sans conducteur.
Alors, tu parlais justement lors de ces trains, tu voulais aller un peu plus loin dans les exemples?
Oui, je voulais aussi un petit peu expliquer ce qu'on avait aussi constaté, quel est l'objectif des opérateurs, c'est les voyages porte à porte. En fait, ce qui intéresse beaucoup les CFF, par exemple, c'est le dernier kilomètre, c'est d'amener les gens jusqu'à la dernière gare ou leur dernier arrêt de bus, et ensuite arriver avec les fameuses navettes sans conducteur, les amener devant leur porte. Et ça, c'est un des objectifs, évidemment, de ces petites navettes, c'est de pouvoir faire le dernier kilomètre. On a aussi vu qu'il y a au CFF maintenant des robots nettoyeurs qui, soi-disant, vont enlever les tâches répétitives des salariés. Mais toute la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces salariés?
Au Forum de Davos, on en parle parce que Radio Django est toujours au Forum de Davos tous les années.
Bien sûr. Hein. On va en avion privé. D'ailleurs.
Voilà. On a beaucoup parlé d'économie numérique et... À ce propos,
avec pilote, je souligne.
Avec pilote,
bah oui.
Et à ce propos, on écoute un extrait de l'édito Écho de Nicolas Barré sur Europe 1, et c'était le 18 janvier 2017.
Alors, je m'empresse de dire que les participants à Davos insistent plus sur les opportunités, les progrès qu'apporte cette révolution, mais ce n'est pas un optimisme naïf et les entreprises ont une responsabilité pour éviter que la révolution numérique, en effet, ne produise des réfugiés numériques.
Cette révolution numérique, c'est notamment l'intelligence artificielle et tout ça.
L'intelligence artificielle, oui, qui fait des pas de géant. J'ai rencontré d'ailleurs un des gourous mondiaux qui s'appelle Joy Ito, qui est patron du MIT et qui dit que l'intelligence artificielle est un peu comme un enfant, si vous voulez. Elle peut être mal élevée ou bien élevée. Et en clair, il faut qu'elle reste dans son rôle d'outil au service de l'homme sans prétendre le remplacer. Et c'est important parce que l'intelligence artificielle est en train de tout envahir, d'où la crainte qu'elle remplace les cols blancs comme les robots ont pris la place des ouvriers.
Bon, on le voit, Christian, à Davos, il règne un optimisme quand même de bon aloi face à ces mutations. Est-ce que les progrès technologiques n'amèneront pas aussi plus de confort et de tranquillité dans le monde du travail?
Ça, je ne sais pas, mais puisque vous êtes allé à Davos en avion, je peux juste vous dire une chose, c'est que votre pilote, il n'a pas fait grand-chose. Hein, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a que du pilote. C'est un pilote automatique et d'ailleurs, ça pose un vrai problème parce que les pilotes ne sont plus que formés pour pouvoir intervenir en cas d'urgence. Comme ils pilotent jamais, ils ne savent pas comment intervenir d'urgence. Ça, c'était pour la petite histoire.
Ils pilotent quand même pour le décollage et l'atterrissage.
Des fois.
Le décollage, en tout cas, je confirme.
Vous êtes pilote?
Oui, effectivement.
Ben voilà. Mais je pense que c'est une discussion qu'on va avoir une autre fois, peut-être. Revenons sur la question que tu m'as posée tout à l'heure. On constate effectivement une polarisation accrue de la société de demain avec ce qu'on pourrait appeler la fameuse classe moyenne qui rétrécit. qui c'est la classe moyenne, ça je vous laisserai décider, mais une forte augmentation des ménages et des travailleurs à bas revenus et une infime minorité de superstars dont les niveaux de richesse explosent littéralement.
Et donc face à ces bouleversements qui paraissent inévitables, comment se positionnent les syndicats ?
Eh bien, il faut commencer peut-être par les choses les plus simples et partir d'un premier constat, c'est que on peut pas accepter des licenciements en raison de la digitalisation. Il faut un revenu décent, il faut une sécurité de l'emploi, il faut retrouver un sens du travail et un lien social. J'insiste souvent sur la question du lien social et du sens du travail parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent plus pourquoi ils font leur travail, quelle est leur mission. Et une chose évidemment essentielle, on nous promet évidemment des gains de productivité. Eh bien, pour nous, les gains de productivité doivent se traduire par une réduction du temps de travail, une augmentation du salaire ou un développement de l'emploi, une meilleure qualification professionnelle grâce à des cours, à des formations et du perfectionnement professionnel.
Donc, en gros, ce que j'entends, c'est il faut que la numérisation profite aux travailleurs et qu'elle ne fasse pas perdre du sens au travail et que ça reste un monde dans lequel il y a des échanges. Et comment est-ce que vous comptez mener ces futurs combats ? Vous avez des stratégies déjà ou comment vous intervenez ?
Alors, des stratégies, ça serait peut-être un petit peu présomptueux de notre part, mais il y a une chose qu'il faut commencer de faire et que de temps en temps on oublie un peu, c'est il faut être très concret, écouter nos membres, relayer leurs revendications. Il ne faut pas être fataliste. Il faut pas, et il faut refuser, comme je l'ai dit, les licenciements. Il faut exiger une redistribution des gains de productivité. Et puis, comme le dit le président de l'Union syndicale vaudoise et membre du SEV, Jean-Claude Cochard, sans travailleurs, il n'y a pas de syndicat, donc la lutte continue.
Merci pour ce mot de la fin.
Fabio, tu avais encore une question, peut-être ?
Non, je voulais demander à Christian s'il y a une lutte actuelle qui résume un peu ça, qui a quelque chose à se mettre sous la dent.
Alors, je vais parler que pour notre syndicat, le SEV.
Oui.
Évidemment, le SEV est devant un immense défi, c'est la renégociation de la convention collective CFF l'année prochaine et la numérisation, parce que les CFF sont des adorateurs de la digitalisation, va être un sujet central des prochaines négociations.
Voilà, on a un peu fait le tour de cette question. Merci beaucoup, Christian Fankhauser. Merci bien d'être venu ce soir nous en parler. Vous êtes secrétaire syndical du syndicat des transports, le SEV. Merci de nous avoir permis de mieux comprendre un peu cette révolution 4.0, comme on l'appelle. On peut retrouver cette séquence sur la numérisation du travail sur notre site, ainsi que toute une série de liens qui nous sont proposés par vous, Valérie et Fabio. Tout ça sur notre site www.django.fm.
La pause syndicale.
Et puis Valérie et Fabio, c'est pas fini, une fois n'est pas coutume, ce mois-ci il n'y a pas de brève syndicale, mais bien deux informations pour autant d'événements à venir.
Oui, alors tout d'abord, une soirée organisée conjointement par l'Union syndicale vaudoise et l'AEHMO, qui est l'Association pour l'étude de l'histoire du mouvement ouvrier, autour de la révolution russe de 1917, puisque on est les 100 ans de la révolution.
Donc, et c'est carrément aujourd'hui que ça a explosé, il y a 100 ans.
C'est carrément aujourd'hui que ça a explosé, exactement. C'est une soirée dans laquelle nous aurons une conférence d'un historien, Eric Honnoble, le rôle du mouvement ouvrier dans la révolution russe. Et ce sera suivi d'une projection d'un film « La peste rouge », un film suisse de propagande anticommuniste qui n'a jamais été réellement montré depuis, qui a dormi toutes ces années dans les tiroirs de la Cinémathèque. Ce sera donc jeudi 16 novembre 2017 à 18h30.
Donc jeudi prochain.
Absolument, jeudi prochain.
Et le lendemain, l'Union syndicale vaudoise s'associe au collectif Autrement ça va, qui est composé de 4 lieux de débat lausannois. Il y a Alliance Sud, Infodoc, Espace Dickens, la Maison de Quartier Sougar et Pôle Sud. pour un événement, je viens de le dire, le lendemain, donc le vendredi 17 novembre. Alors, pour expliquer un tout petit peu, en 2016, ce collectif a proposé moult événements sur le thème des multinationales, faisant écho à l'initiative fédérale pour des multinationales responsables qui sera bientôt votée par le peuple suisse. Comme 2017 a été décrété par l'ONU une année du tourisme durable pour le développement, on a donc décidé d'explorer quelques formes alternatives au mode de tourisme proposé par le néolibéralisme hypermobile, qui touche de manière plus large au mode de vie, de migration, de déplacement pendulaire, pour les besoins du monde du travail, etc. Bien, ceci dit, le vendredi 17 novembre est prévue la projection de « La conquête du temps libre », un film de 1992 d'Alex Mayenfisch et Doudou Denizard, qui font partie de l'association lausannoise de réalisation Climage. Ce documentaire nous explique la lutte des classes populaires et des syndicats pour l'obtention des premiers congés payés et de fait aussi les prémices un peu du tourisme. Donc voilà, le tour est joué, on a fait le tour. La projection est prévue à 20h30 ici à Pôle Sud et elle sera suivie par plusieurs éclairages sur l'évolution des habitudes dans les milieux des travailleurs, notamment la relation entre vacances et formation, le développement des bons vacances RECA et l'extension des voyages low cost. Et on y parlera aussi de tourisme solidaire et découverte du Dolce Far Niente.
Voilà, donc tout un programme qui nous faisait office de brève syndicale pour ce mardi 7 novembre. Merci beaucoup Valérie, merci Fabio. Les deux dates qu'on retiendra, les 16 et 17 novembre prochains, donc c'est la semaine prochaine, jeudi et vendredi. Le mois prochain, le 5 décembre, mardi 5 décembre, dernière pause syndicale pour 2017. Est-ce qu'on connaît déjà le sujet, en tout cas une vague idée?
Oui, alors on Valérie. Y parlera de l'initiative Nobilag. Si cette initiative passait, ce serait probablement la fin pour toute une série de services publics dans le domaine des médias. Le milieu syndical est quant à lui très préoccupé par l'acceptation d'une telle initiative qui signerait l'arrêt de mort de centaines de postes de travail en Suisse.
Oui, on parle même effectivement de milliers de postes de travail mis sur la touche. On en parlera le mois prochain, donc le 5 décembre pour cette émission spéciale Nobilag. Et puis ce sera également l'objet en début d'année d'une série d'émissions sur toujours cette question de Nobilag. Comme il était question de numérisation de l'économie et qu'il est fort probable qu'une cohorte d'apprentis sorciers inventeront des plans foireux et des projets dangereux. Voici une chanson de circonstance, La Java des bombes atomiques de Boris Vian, interprétée ici par Sainte Severino.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans jamais avoir rien appris, c'était un vrai génie. Question de travaux pratiques, il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Le soir, quand il rentrait chez nous, il nous mettait en transe en nous racontant tout.
Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3,50 m. Y'a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement.
Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant le repas, v'là tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça.
À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Et y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement.
Et puis il y va. T'es là, tonton ? Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut des excuses de ce que sa caille était aussi petite.
Excusez-moi.
Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant:
soyez sages.
Et quand la bombe a explosé de tous ses personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné, et devant les jurés, le voilà qui bafouille.
Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure de mon Dieu, quand mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir sauvé la France.
On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia.
Et le pays reconnaissant l'élu immédiat, chef du gouvernement.